les deux orateurs du jour, Martin et Elisabeth Schenkart. Ils sont membres de la communauté d'Emmanuel. Avec leurs quatre enfants, ils vivent à Vorarlberg en Autriche. Elisabeth est allemande et professeure en langue, et Martin est autrichien de profession journaliste. Je vous rassure tout de suite, l'enseignement sera donné en français. Ils sont depuis 2 ans coordinateurs internationaux de la communauté d'Emmanuel pour l'ensemble des pays européens hors de la France. Ils vont vous parler du point concret sur ce qu'on a vécu ici et comment repartir, changer de retour à la maison.
Bonjour à tous. C'est une grande joie pour nous d'être avec vous depuis 2 jours. Au début, on s'est dit, on dirait, on est à Paray-le-Monial parce que ça semble d'être les mêmes grâces. Mais on a bien constaté, on est à Beaurain. Après, on s'est dit, on dirait, on est à Altötting parce que c'est très bien organisé. Mais on a découvert, on n'est pas à Altötting, on est bien à Beaurain. Mais on a découvert, on est détendu ici, c'est très paisible. Alors, on est bien en Belgique. Alors, on vous encourage, restez détendus à Paray-le-Monial. Nous avons vécu pendant cette session ici à Beaurain. Voilà, ça va arriver. Nous avons vécu ici à Beaurain avec le thème « Et pour vous, qui suis-je ?» Il serait donc maintenant, je pense, intéressant de poser cette question à tout le monde ici, qui est Dieu pour toi? Qu'est-ce que toi, tu viens de découvrir de ce Jésus? Même après 13 ans de mariage dans notre couple, on est toujours en train de découvrir de mieux en mieux qui est-ce que je suis, qui est-ce qu'elle est. Alors, ça arrive quand même parfois qu'elle découvre des trucs dans la poubelle où Elisabeth se pose la question, mais comment est-ce que ça peut arriver dans la poubelle? Parce qu'on a bien besoin de cette affaire. Et alors, c'est bien moi qui ai jeté ça, parce que je trouve qu'on n'a plus besoin de tout de ça. Ou moi, je peux être très surpris, comment est-ce qu'on peut passer tellement de temps au téléphone, sans arrêt, on dirait qu'on est en train de téléphoner avec l'éternité. Alors, on est en train de nous découvrir les uns les autres, avec tous nos cadeaux, nos fardeaux, avec nos talents, avec nos limites. Et c'est aussi comme ça, la relation avec Dieu, ça nous fait découvrir d'un côté de plus en plus qui est-ce que je suis moi-même et qui est-ce que tu es, Jésus. Alors nous sommes rentrés durant cette semaine dans une affaire très personnelle, dans une relation avec Dieu, à la fois pour nous découvrir nous-mêmes beaucoup mieux et à la fois pour comprendre qui est-ce qu'il est ce Jésus. Alors, les dernières heures de cette session sont arrivées. On peut se demander, qu'est-ce qui est donc le résultat de cette semaine? À quoi est-ce que ça a servi de prendre quelques jours de vacances pour venir ici à Beaurain? Et pouvons-nous rentrer à la maison comme nous sommes venus ici? Est-ce qu'il faut adapter quelques attitudes, peut-être? Ou est-ce qu'on retourne tout de suite à la manière quand on est venu ici? Et pour commencer ce essai, on a pensé de poser cette question et de partir de cette question. Est-ce que nous avons vécu ici quelque chose qui semble un peu à Pentecôte? Est-ce que j'ai vécu personnellement une expérience avec l'Esprit de Dieu qui est toujours vivant et qui est en train d'agir?
Nous posons cette question parce que cela nous semble très important. Petit excours, quand l'apôtre Pierre s'est adressé à Pentecôte à la foule, qu'est-ce que les gens ont demandé? Ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? On peut ajouter maintenant. Parce que leur vie d'avant n'était plus la vie que d'après. Ils ont connu l'Esprit Saint qui a changé toute leur vie. Et j'espère que vous avez fait cette expérience dont, chère Béatrice, nous a donné vraiment un témoignage touchant hier. Elle a passé beaucoup de temps à en parler. Cet esprit de Dieu qui intervient dans notre vie et qui nous donne un cœur de flèche au lieu d'un cœur de pierre. Parce qu'il s'agit de l'expérience personnelle, hein, je souligne, personnelle de l'amour de Dieu. C'est aussi les apôtres qui ont compris que c'était la mission de Jésus, que Jésus, lui, a apporté à ses disciples, aux apôtres, cette expérience de l'amour du Père. Et ils ont compris à ce moment-là que c'est un amour pour tout le monde, pas seulement pour eux. Et aussi, je crois, les gens qui y étaient, ils ont compris à ce moment-là que ce n'était pas quelque chose d'exclusif que j'ai gagné pour moi, maintenant je porte, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut partager, qu'il faut donner aux autres, qu'il faut montrer aux autres. Et comme Jésus a dit, c'était le titre de notre enseignement, « Allez donc de toutes les nations, faites les disciples », en fait, c'est comme si on nous disait, ou si on vous disait, « Allez donc et faites des disciples dans le monde entier hein, ». C'est le même dans la tradition. Pour moi, c'était un moment important à le comprendre, dans mon cheminement avec le Seigneur, qu'en fait, je me retrouve dans la tradition de ceux qui ont participé à Pentecôte. Hein, c'est aussi à moi que le Seigneur me demande, vas-y et partage ton expérience, fais les disciples dans le monde entier. Et maintenant, il faut voir qu'est-ce que c'est le monde entier pour nous, hein, personnellement. Alors, le programme, c'est clair, c'est notre tour maintenant. Hein, quittons ce lieu d'avoir passé ces jours-là, c'est à nous de continuer de partager cette expérience et de peut-être changer quelque chose dans nos vies. Pour vous aider, alors pour moi, ça veut dire, rentrer à la maison, ça veut dire, je me décide de vivre l'amour. On pourrait dire la mission telle qu'est donnée du Seigneur aux apôtres et à nous, c'est de vivre l'amour. Et pour moi, il y avait un moment quand on avait, je ne sais plus, 2 ou 3 enfants, et je suis à la maison, je ne travaille pas, et peut-être les femmes d'entre vous qui descendent, ils savent, la vie commence vraiment à être des détails. Tu rentres en détail, tu n'as jamais fini avec tes devoirs, tout c'est imperfectionnisme, et voilà. Beaucoup de joie, mais aussi beaucoup. Et je me demande, mais qu'est-ce que je fais en tant que membre de l'Emmanuel, avec une grande émission, des projets, tout ça, mais qu'est-ce qui est en place? C'est un moment, en poussant comment ça dit, là où il y a le bébé dedans, voilà. Et j'ai découvert que, en fait, toute ma vie est mission. Tout ce que je fais avec mes enfants, avec mes soeurs et frères de la communauté, avec les gens de l'école, les enfants, tout ça, ma vie quotidienne, c'est ma mission. Et vivre l'amour là-dedans, c'est ma mission. Et à travers cela, j'appartiens au royaume. Aussi, Béatrice nous a partagé ça, le royaume du Seigneur est déjà là, et à travers ça, je peux partager à la continuation de la construction du royaume du Seigneur.
Nous nous sommes dit, en fait, peut-être qu'on peut avancer un peu avec ce qui était dit hier, le don de soi. Béatrice nous a parlé du don de nous-mêmes, et on s'est posé un peu la question, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement de nous donner dans le quotidien? C'est aussi comme nous l'avons entendu aujourd'hui dans la louange que nous restons dans certaines attitudes que nous avons vécues ici ensemble et on sait très bien que c'est beaucoup plus simple si on est ensemble dans un contexte pareil ici qu'après dans le monde du travail et qu'après dans le monde de la famille de tous les jours. Mais comment est-ce que nous pouvons rester donc dans l'amour et grandir dans cet amour?
Alors, nous avons choisi quelques points concrets qu'on espère que ça vous aide vraiment à le garder en mémoire d'abord et puis à vraiment ça vous aide de rentrer dans l'amour au quotidien, à faire ce petit pas dans le cheminement dans notre mission. Alors, les premiers 4 points viennent d'un livre qui s'appelle « Fish », alors la poisson ou « Vase à la pêche ». On aime bien les images et je vous explique ça un peu parce que ça vous aidera à garder ces points en mémoire. C'est le titre d'un livre d'un best-seller américain qui vient du domaine psychologique de la gestion d'une entreprise. La motivation des employés, l'augmentation de la performance d'une équipe. Alors bref, des approches modernes de la psychologie organisationnelle. Et l'histoire dans ce livre, il s'agit d'une femme, de Mary Jane, qui est devenue chef d'un département dans son entreprise, dans lequel les employés ne sont pas motivés, ils trouvent leur travail ennuyeux, ils ne peuvent pas coopérer. Alors, aucun service ne fonctionne. Et voilà, c'est à elle qu'on s'attend, qu'elle apporte une nouvelle vie, une nouvelle énergie, une progression à cette entreprise. Un devoir difficile. Et pour elle, c'est une visite au marché aux poissons de Seattle, qui s'appelle Pike Place, alors une visite au marché aux poissons, qui lui montre quelques solutions. Parce qu'en observant les vendeurs des poissons dans une atmosphère positive et entraînante, elle apprend qu'une équipe motivée est capable de grandes réalisations dans une atmosphère de travail détendue et joyeuse. Bon, c'est l'image export. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette expérience du marché aux poissons?
Première attitude de vendeur, je choisis mon attitude. Alors, les vendeurs du poisson, ils savent bien qu'ils ont le choix de rentrer sur le marché d'une attitude ennuyante ou fâchée ou d'une attitude positive et d'une attitude avec un cœur ouvert parce que peut-être ils ne savent pas de ce qui va leur arriver concrètement durant la journée, mais au moins ils savent qu'ils veulent vendre le poisson. Dans cette attitude, donc, ils rentrent positivement sur ce marché. Alors pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Le matin, dès que le réveil sonne, on a le choix. Soit de se dire, alors aujourd'hui, c'est papa fâché parce que le travail est alors, ça marche pas du tout. Ou aujourd'hui, j'y vais et je ferai de mon mieux. Alors j'ai le choix dès le début du matin de me décider, est-ce que je rentre positivement dans cette journée, même si je sais que ça va peut-être être difficile. Est-ce que je prends cette journée à la légère ou est-ce que je la prends au sérieux? Alors, nous connaissons tous ces moments, même durant la journée, ça peut changer. Mais beaucoup dépend aussi de notre décision intérieure, de quelle manière est-ce que je voudrais aborder ma vie et vivre cette journée. C'est aujourd'hui que je vis, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Alors, Elisabeth, elle met parfois des trucs, des papiers sur le frigo. Je n'aime pas du tout parce que ça colle à gauche et à droite. Mais voilà, il y a une chose qui m'a bien plu. En plus, ça aide à ne pas être froid, d'avoir un peu de chaleur, non pas froid comme le frigo. C'est le décalogue du pape, le décalogue de la sérénité du pape Jean XXIII.
Ça vous dit?
Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est combien de points tu connais pas sûr.
C'est 10 points, 10 décisions. Attends, j'ajoute.
Oui, ajoute.
C'est mon truc en fait. C'est Jean 23 qui a écrit ce décalogue de la sérénité et ça consiste en 10 points où il note des décisions que je prends que pour aujourd'hui. Alors, par exemple, première décision, il dit « Bien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ma journée sans chercher à résoudre le problème de toute ma vie. Hein? » Rien qu'aujourd'hui. Il y a 10 propositions qui commencent tous avec « Rien qu'aujourd'hui. » Je fais ceci et ça, voilà. Et le sixième, ça m'a touché personnellement parce que le sixième, je vous lis, c'est « Rien qu'aujourd'hui, j'accomplirai au moins une chose que je n'ai pas envie de faire. Ici, en mon sens, je ne le manifesterai pas. » Et alors ça, vraiment, dans des préparations des choses, alors on ne parle pas de changer de couche ou quelque chose comme ça, mais vraiment quelque chose qui nous pèse lourd, parce qu'on n'a pas envie à le faire. Et moi, ça m'aide à prendre cette décision, à rentrer dans une attitude, rien que pour aujourd'hui, je me décide à faire cette chose-là d'une attitude positive.
Aussi, dans notre communication, nous avons déjà constaté qu'on se dit mutuellement, On se dit mutuellement, tu te rappelles bien de rien qu'aujourd'hui j'accomplirai une chose désagréable. Alors voilà, si elle me demande de changer les pneus, par exemple, je n'aime pas du tout la voiture, où il y a d'autres affaires, où on voit bien des bonnes consignes pour l'autre. Alors, pour moi, ce qui m'aide beaucoup de rentrer dans une bonne attitude le matin, c'est soit si on arrive, mais on n'arrive pas toujours, de prier ensemble, de chanter un chant au début de la journée et vraiment de remettre à Dieu cette journée avec tout ce qui arrive. Ou si je suis dans la voiture et je suis pendant 20 minutes, que je mets un CD de louange et que je loue le Seigneur au début de la journée et je lui remets cette journée concrètement dans le quotidien. Et je vois que ça fait changer mon attitude. Aussi, j'ai constaté que parfois nous avons besoin d'un peu plus de temps et plus de recul. Et parfois, ça arrive qu'on reçoit un email qui est vraiment très, très désagréable. Et on voudrait réagir tout de suite parce qu'on est complètement fâché et on se dit, mais alors, qu'est-ce qu'il pense en fait? Mais pour qui est-ce qu'il se prend? Et pourquoi tout ça? Et ce qui m'aide beaucoup, c'est de prendre ce recul et de dire, au moins 24 heures, ça peut attendre. Parce que demain, peut-être que ça ira mieux avec moi. Soit je dors, soit je fais du sport, soit je parle à Elisabeth, soit on boit un peu de vin et ça ira mieux. Et alors, le lendemain, répondre à ce mail avec une certaine distance, peut-être moins chauffé pour résoudre la question. Alors, premier point, je choisis mon attitude. Deuxième point.
Merci. Deuxième inspiration du marché aux poissons. Je ne me prends pas trop au sérieux. Alors, retournons aux vendeurs de poissons. Bon, ils sont sérieux au travail, mais ils essayent de rendre leur travail un peu amusant et joyeux. Hein, parce que cela leur apporte de l'énergie. Alors, on s'imagine, ils jettent un peu le poisson en l'air, même ils chantent avec les clients. Alors, ils créent une atmosphère qui est léger, qui fait envie, qui donne envie à acheter des poissons. Et c'est la conséquence, hein. Eux, ils veulent vendre leurs poissons. Et qu'est-ce que cela nous dit? Et c'est important. Ils sont sérieux au sujet de leur devoir. Alors, c'est à nous d'être sérieux au sujet de notre devoir, sans nous prendre soi-même, nous-mêmes, trop au sérieux. Hein, c'est une différence. Parce que pour nous, d'avoir fait l'expérience de Dieu, tout ne dépend pas de moi. Et ça, c'est quelque chose de très important. Hein, ça nous aide vraiment à rentrer dans une attitude sérieuse vis-à-vis des choses qu'on nous demande, mais ça nous donne aussi la possibilité à nous mettre un peu en arrière. Ça nous donne aussi la possibilité de vivre avec nos limites, avec nos faiblesses, avec notre imperfectionnisme. Parce que, par exemple, vous connaissez cette expérience, si on se prend trop au sérieux, on risque, par exemple, d'être blessé parce que quelqu'un ne nous informe pas, parce que quelqu'un ne nous demande pas conseil, parce que quelqu'un ne nous invite pas, ou ne nous donne pas la place que nous pensons avoir méritée. Hein, c'est tous lié au sujet, est-ce que je me prends trop au sérieux ou est-ce que je peux lâcher cette vue de ma personne un peu. Un exemple personnel de moi, c'est un petit exemple de vie de mère de famille. Alors moi j'aime bien avoir des enfants qui se comportent bien, hein, qui ne socialisent pas.
Même des maris.
Et je me retrouve vraiment dans des situations où je n'arrête pas à leur dire ne fais pas ceci, ne lâche pas. Et le petit, il a commencé à manger son t-shirt. Je trouve ça horrible. Mais si je suis très honnête avec moi-même, bien sûr, c'est important de leur donner un comportement qui va bien. Mais en fait, ce qui vaut, le point important, c'est en fait c'est moi qui veux avoir des enfants qui se comportent bien pour que vous tous disent, hein, les fakers, ils sont vraiment des enfants bien qui se portent bien. Hein? Et bon, c'est tous humain et naturel, mais moi, souvent, quand je risque d'être trop critique vers mes enfants, trop, je sais pas comment dire, hein, ça m'aide vraiment à reculer un peu en disant, mais qu'est-ce qui vraiment, qu'est-ce qui vaut, hein, où est le point, le moment important? En fait, ce sont tous des moments de nous, où nous pouvons être humbles, hein, parce qu'en fait, c'est l'humilité, un grand mot, mais un mot qui se manifeste dans le quotidien, hein, je vous assure. C'est l'humilité qui nous aide à survivre ou surpasser ce moment-là, parce que nous savons que c'est Dieu qui nous aide, et c'est Dieu qui aide nos enfants, et c'est lui qui nous a fait tels que nous sommes, et qui nous donne le perfectionnisme qui nous manque d'un point de vue humain. Et un autre aspect dont cette, ne se prend pas trop au sérieux, on pourrait en parler des heures, c'est le pape qui parle du service, du don de soi. Hein, parce qu'en fait, c'est lié, hein, ne se prendre pas trop au sérieux, être humble, se mettre en arrière-plan, tout ne dépend pas de moi, c'est le service. Le service concret nous aide à vivre tout cela, et je cite pape François, le vrai pouvoir est le service. Comme Jésus l'a fait, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, dans l'Église, il n'y a pas d'autre moyen d'aller de l'avant. Pour les chrétiens, avancer et progresser signifie s'abaisser et s'humilier. Avancer veut toujours dire servir. Dans l'Église, c'est lui qui sert. C'est lui qui s'engage le plus dans le service de l'autre et toujours le plus grand. Et je vous laisse à votre imagination, qu'est-ce que ça veut dire le service pour vous concrètement.
Point numéro 3. Je rends heureux les autres. Les hommes au marché de poissons, ils se parlent les uns les autres et ils s'intéressent vraiment aux gens qui viennent, pour comprendre ce que les gens disent et pourquoi ils viennent au marché et où sont leurs besoins profonds. Et ils s'offrent des petits cadeaux, un poisson gratuit et quelque chose de plus. Voilà. Alors c'est tout un jeu de jouer avec ces poissons et de faire du bien et de surprendre quelqu'un avec un désir qu'il ne connaissait même pas en soi. J'ai un ami prêtre qui lui a pris une décision pour lui personnellement, c'est de rendre heureux une personne par jour. Alors il m'en partage beaucoup de ça et il n'y arrive pas toujours, mais je vois que ça rend premièrement heureux ce prêtre. Alors il est vraiment heureux de pouvoir rendre d'autres heureux. Et il fait ça très très concrètement. Il fait des visites d'anniversaire. Il fait même des courses pour sa secrétaire. Il nous demande s'il pourrait nous aider dans un certain domaine. Moi, je suis vraiment impressionné par cette attitude d'attention qu'il vit. Et je vois que ça le rend heureux lui-même. Et ça m'encourage aussi, chaque fois quand je le rencontre, moi aussi, de faire un point de cette attention envers les gens qui ne reçoivent pas assez d'attention. Aussi, c'est un défi de comprendre quelle est la langue, par exemple, de mon vis-à-vis, ou qu'est-ce qui va rendre heureux mon vis-à-vis. Parce que c'est pas que rendre... De chercher un cadeau quelque part et après c'est fini, voilà, de se poser la question, mais qu'est-ce qui plairait bien à celui ou à elle? Alors, dans notre couple, on a bien découvert au début, j'ai été éduqué plutôt du style, alors des fleurs peuvent résoudre tout. Et voilà, en tout cas, c'était comme ça, je me suis dit, voilà, avec les fleurs, c'est déjà presque gagné. Alors, mais j'ai dû comprendre que bon, alors, les fleurs ne vaut pas le prix parfois. Alors, Elisabeth, elle m'a dit, alors je n'ai pas besoin de tes fleurs, mais j'ai besoin qu'on se parle. Alors, et pour moi, donc, alors c'est toujours, et c'était un défi, parce que c'est bien plus facile d'acheter des fleurs. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien les fleurs. Alors, moi, je serais heureux si je recevrais des fleurs. Alors, bon, en tout cas, c'est un défi pour nous, vraiment, de nous comprendre mutuellement, mais qu'est-ce qui ferait bien à l'autre, et de franchir un pas vers ce qui est bien pour l'autre, pour avancer dans ce domaine. Ce qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai lu un livre de Roger Schroeder, qui est professeur des études interculturelles et expert missiologie catholique, c'est très difficile à prononcer, il a dit « Évangéliser, c'est rentrer dans le jardin de l'autre ». Alors, on est toujours en train de parler de l'évangélisation, même si vous ne l'avez peut-être pas réalisé, que nous sommes en train de parler de la mission, comment apporter la bonne nouvelle dans le monde aujourd'hui. Et Roger Schroeder nous dit, évangéliser, c'est rentrer dans le jardin de l'autre. Alors, si on rentre dans un jardin de l'autre, premièrement, on est admiré de ses fleurs. Et on dit, mais voilà tes fleurs, qu'est-ce qu'elles sont belles, ou tes arbres, tes pierres. Il dit que la bonne nouvelle de Jésus, c'est quitter nos propres territoires bien sécurisés pour aller vers un lieu dont nous n'avons pas la maîtrise et qui cultive peut-être aussi d'autres valeurs que nous ne partageons pas. Mais nous allons à la rencontre d'amour. Rentrer dans le jardin de l'autre, de nos voisins, de nos collègues de travail, c'est d'être intéressé par leur jardin et de nous poser la question comment nous pourrions rendre heureux les autres.
Un quatrième point, être présent à 100%. Alors, au marché, les vendeurs de poissons, ils y sont. Mais ils ne font que leur travail. Ils y sont à 100%. Hein, ils ne sont pas à donner un coup de fil à quelqu'un à côté ou peut-être à penser, mais cet après-midi, il faut faire ceci et ça. Mais là, à ce moment-là, ils investissent tous à leur travail. Alors, pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important, il me semble. Si nous nous posons la question, est-ce que nous sommes vraiment toujours bien présents? Est-ce que cela m'arrive que je commence à écrire un email en parlant en même temps au téléphone parce que je dis « Ah, c'est pas si important ce qu'il dit, alors je peux vite faire quelque chose. » Est-ce que j'écoute mon enfant vraiment, hein, on a un fils qui prend son temps à raconter des choses. Hein, alors, il y a deux qui sont un peu plus vite et le troisième, vraiment. Et je me vois quelquefois que dans ma tête, j'écoute, je le laisse parler. Parce qu'en fait, à la fin, j'ai bien compris ce qu'il veut me dire. Et j'ai une mauvaise conscience, ça me touche, ça me fait mal, hein, parce que je ne lui donne pas cette attention et je ne suis pas présent à 100% à ce moment-là, où il a peut-être besoin. Ou aussi une autre situation, lors d'une réunion plus large, où on connaît plusieurs personnes. Alors, mes soeurs et frères connaissent cette situation-là. Alors, et on voit quelqu'un de nouveau à peine qu'on a salué une personne. Hein, et c'est une question des yeux. Alors on est là, on dit salut à quelqu'un, et en fait, on est déjà avec le regard, on a trouvé quelqu'un d'autre. Et ce que le Seigneur nous demande, en fait, c'est soyez présent à ce moment-là quand vous rencontrez quelqu'un. Quand quelqu'un vient vers vous, prenez votre temps, restez là et donnez-lui tout le regard que le Seigneur lui donnerait. Alors, c'est un principe d'appréciation de l'attention envers chacun et chacune. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est pas pour rien. Hein. C'est nous qui sommes aimés par Dieu. Nous sachons que aussi l'autre, il est aimé par Dieu. Et c'est un appel de ne pas juger. Hein. Mais plutôt de voir la beauté, les talents de la personne, même si c'est difficile, et je sais que c'est difficile, hein. Mais vraiment, il faut nous décider à traverser cela, vraiment à donner la chance à l'autre. Il y a ces moments de la grâce, j'ai déjà découvert ça, vraiment, où l'autre devient quelque chose de particulier et on ne s'y attendait pas du tout. Hein, parce qu'on a quitté ses propres limites et on rentre vraiment dans cette perception de l'autrui, à 100%.
Dans notre société, nous souffrons souvent d'une critique destructive. Ça nous arrive dans nos compagnies, dans notre lieu de travail, dans toutes sortes de lieux. je pense que nous avons tous déjà fait cette expérience, une personne sort de la salle et tous les autres commencent à parler de cette personne. Et au moment où la personne était présente, personne n'a dit rien. Mais maintenant, la personne est disparue, alors on fait le jugement. Alors, c'est vraiment une attitude qui est complètement destructive et qui ne construit ni l'atmosphère, ni la personne. Et je pense vraiment que nous avons une vocation, en étant chrétiens, de toujours essayer de ne pas faire avec ce jeu et de ne pas y rentrer. Et si nous sommes rentrés, de sortir et de recommencer avec un regard d'attention et d'amour envers chaque personne. Parce que si nous avons reçu ce commandement de Jésus, aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle, ça doit être notre attitude de sauver les gens avec Jésus. Alors notre attitude, ça doit être celui qui sauve et non pas celui qui condamne.
Pardon pour ajouter, mais ça concerne vraiment d'abord aussi notre vie en couple, ceux qui sont concernés, parce que là, ça commence à la façon de laquelle je parle de quelqu'un ou de quelque chose. Et c'est un appel à nous encourager mutuellement à ne pas rentrer dans un esprit de critique trop fort, par exemple. Ou, par exemple, j'ai vécu quelque chose, je me suis énervée de quelqu'un, même de la famille peut-être, de Martin, et c'est à moi de me décider, et ça me vient à l'esprit, mais est-ce que ça vaut le coup de lui raconter? Parce que qu'est-ce que je gagne en lui racontant que ma belle-sœur, elle a dit ceci ou ça? Je sais pas, quelque chose de pas important. Et parce qu'au moment où je commence à raconter, par exemple, alors on est dans un esprit, déjà, qui n'est plus l'esprit d'amour.
On est donc toujours dans ce point à être présent. Et le pape de nouveau nous encourage. Alors nous sommes impressionnés par ces homélies. Nous vous encourageons de les lire chaque jour. C'est super. Et il nous dit que ce qu'on savait déjà, mais voilà, il nous confirme, la vie peut être très très compliquée et parfois très très difficile. Mais il dit, la vie, a-t-il la poursuivi, n'est pas toujours tranquille et belle. Quand il y a des difficultés, il faut bien les regarder, les affronter et en parler. Il ne faut jamais les cacher. La vie est ainsi. Il faut prendre la vie comme elle vient, non comme nous voulons qu'elle vienne. Nous devons être comme un gardien de but qui doit attraper les ballons, n'importe de quelle direction ce ballon va nous arriver. Ainsi, nous ne devons pas avoir peur des problèmes. Jésus lui-même dit à ses disciples, « C'est moi, n'ayez pas peur, c'est moi. » Toujours avec les difficultés de la vie, avec les problèmes, avec les choses nouvelles que nous devons affronter, le Seigneur est là.
Maintenant, nous quittons le marché. Et nous rentrons au point que nous avons ajouté parce qu'il nous semble important à les avoir entendus. Et comme Martin a déjà dit, c'est accepter d'être dérangé. Bon, nous avons nos plans, nous avons un programme et on veut bien suivre et accomplir ce que nous avons dans nos têtes. On est en train de faire la cuisine, les enfants arrivent, un couple de téléphone arrive, le mari m'appelle du bureau pour un petit conseil ou une correction, je ne sais pas, une visite spontanée des amis ou des beaux-parents. Alors ma journée, elle est remplie de tous les moments où il faut que je me décide à me laisser déranger, avec la conséquence que je ne peux plus poursuivre mes plans. Cela fait partie de notre vie. Et cela est aussi une véritable école de charité. Il y a un prêtre qui, dans un enseignement, une fois, il est allé jusqu'à dire que c'était l'appel de la famille de se laisser déranger. Parce que ça nous dérange. Ce n'est pas quelque chose qu'on aspire. Mais souvent, je découvre, en acceptant un dérangement de mes plans dans ma vie, une certaine grâce, un petit cadeau, un temps gratuit avec mes enfants, quelque chose qui s'organise sans que je fasse grand-chose. Alors, il y a vraiment souvent un moment en acceptant que c'est quelqu'un d'autre, c'est le Seigneur, c'est notre vie qui change les programmes. Il y a aussi quelque chose de guérissant ou aussi de positif là-dedans. Et un modèle qui m'aide, c'est une sœur consacrée, mais c'est Sainte Thérèse de Lisieux quand même, qui m'aide à tenir le coup dans mon quotidien, c'est la patronne de la mission dans l'église. Et à l'âge de 22 ans, en lisant les lettres de Saint Paul, elle découvrait sa vocation. Elle disait, elle voulait être l'amour dans le cœur de l'église et son seul désir était de sauver les âmes des hommes en faisant des petits actes de sacrifice d'amour. Et c'est exactement ces petits actes de sacrifice d'amour qui nous tombent devant les pieds, hein, des milliers de fois pendant la journée, entre autres en étant dérangés, qui nous aident à grandir dans l'amour.
Le sixième point, tout court et tout difficile. Nous sommes une carte de référence de Dieu. C'est ce que Paul Claudel...
Carte de référence. Carte que vous donnez pour que l'autre...
Carte de visite.
C'est ça, ce qu'on va dire.
Alors, c'est ce que Paul Claudel a dit. Parle du Christ quand on te le demande. Vis de la manière telle qu'on te demande parler du Christ. Alors, parle du Christ quand on te le demande, et vis de manière telle qu'on te demande parler du Christ. J'ai pas ajouté beaucoup de choses sans que ça ne me donne pas souvent de parler de Dieu, l'occasion, car c'est vraiment très très difficile de vivre d'une manière que tout le monde va te poser la question, mais alors qu'est-ce que toi tu vis, qu'est-ce que tu rayonnes, qu'est-ce que je peux reconnaître que le ciel est déjà tombé sur la terre si je te regarde. Alors, nous constatons vraiment une grande pauvreté de rayonner l'Évangile dans notre quotidien, essentiellement dans notre famille, essentiellement au lieu de notre travail, là où nous retrouvons toujours les mêmes gens. Ce qui m'a beaucoup touché dans mon travail, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une compagnie d'alimentation, dans le domaine de marketing, et quand mon patron m'avait présenté, il m'avait présenté comme quelqu'un qui avait fait des études de théologie et qui avait déjà travaillé aussi pour l'Église. Alors tout le monde savait tout de suite que je venais d'une certaine...
d'un bateau
catholique. Et j'ai vu que c'était très très difficile, que le thème de la foi n'était jamais un thème et qu'on parlait pas vraiment. Alors, j'ai essayé de faire mon travail le mieux possible et essentiellement si j'ai eu des échanges concernant la foi, c'était toujours écouter la critique envers l'Église. Et c'était essentiellement ça, ce que j'ai essayé de vivre, d'entendre ce que mes contemporains pensent de l'Église et de rester dans un bon contact. Et après 2 ans, un collègue de travail est mort, très soudainement. Et pour moi, c'était une occasion de surprise. Parce que, premièrement, c'était le silence qui arrivait et plus personne n'osait parler. Et on ne se parle plus parce qu'on ne savait pas comment agir avec cette situation difficile. Et un après l'autre, pendant toute une semaine, était venu auprès de moi pour aborder le thème de la foi, des manières très très différentes. Les uns en disant « mais on ne sait pas quoi dire », les autres en disant « mais comment est-ce qu'on peut prier, est-ce que ça sert à quelque chose de prier ?» J'étais vraiment touché pendant cette semaine. Pour moi, c'était comme une semaine de grâce inattendue, qui arrivait et qui disparaissait après aussi, mais où j'ai pu voir, on peut cheminer avec les autres dans une attitude d'écoute et de compassion, et que les gens, souvent, réalisent très très bien que les chrétiens sont présents, et souvent ils réalisent très très bien, mais il faut le bon moment pour en parler, et il faut ce jardin avec la porte ouverte, et il faut le feu vert. Le feu rouge ne marche pas. Alors, avec la voiture, feu rouge, attention. Et c'est ça aussi dans notre profession, s'il y a l'ouverture que nous osons de parler du Christ, comme dit Paul Claudel, si on nous pose cette question. Le septième point, et nous arrivons à la fin, c'est nous ne pouvons pas nous taire de ce que nous avons entendu. C'est comme c'est écrit dans les Actes des Apôtres. Nous ne pouvons pas nous taire de ce que nous avons entendu et vu. C'est donc les disciples qui ont le besoin, qui ont le désir de partager la joie, l'espérance de la foi. Peut-être que vous connaissez cette histoire des deux hommes qui marchaient dans le désert et il faisait bien sûr chaud et ils n'avaient plus d'eau pendant des journées et ils ont cru qu'ils vont mourir tous les deux. Alors un des deux, tout à coup, découvre une source et il voit « on va vivre ». Alors, il crie des joies, il pousse des cris de joie, on va survivre. Et il n'est pas sûr dans le moment, est-ce que c'est que lui qui va survivre ou est-ce qu'il va partager l'eau avec l'autre pour qu'il puisse survivre aussi. Alors, nous sommes dans la mission où, après une semaine comme celle-là, devons le choix de garder l'eau découverte pour nous-mêmes, pour survivre nous-mêmes dans notre quotidien, ou devant le choix de dire « j'ai découvert une source, je vais la partager aux autres ». Apporter la bonne nouvelle dans le monde veut dire apporter la source pour survivre, la relation personnelle avec Jésus dans le monde entier. Et le pape François, dans ce contexte, disait le 8 mai dans son homélie, « Jésus n'a exclu personne, il a construit des ponts, non des murs. Son message de salut s'adresse à tous. Qu'est-ce qui est l'attitude de bon évangélisateur, ouvert à tous, prêt à écouter tout le monde, sans exclusion ? » Fort heureusement, le pape a noté, je cite, « À présent, c'est une bonne période dans la vie de l'Église. Ces 50-60 dernières années sont une belle époque. Parce que je me souviens, quand j'étais enfant, on entendait dans la famille catholique, dans la mienne aussi, non, on ne peut pas aller chez eux parce qu'ils ne se sont pas mariés à l'église. C'était comme une exclusion. Non, tu ne pouvais pas y aller ou parce qu'ils étaient socialistes ou athées. Nous ne pouvions pas y aller. Mais à présent, grâce à Dieu, on ne le dit plus. Et le pape propose l'exemple de Saint Paul à l'Aréopage, qui annonce Jésus-Christ au milieu des adorateurs, des idoles. Et l'important, selon le pape, c'est une manière d'annonce dans la joie et d'espérance pour tout le monde et à la recherche d'un dialogue avec tout le monde. Le pape nous encourage vraiment à prendre au sérieux que le bon Dieu nous a créés avec deux oreilles et une bouche, ce qui veut dire écouter deux fois et parler qu'une fois. Et dans l'évangélisation, nous devons donc vraiment apprendre d'écouter pour comprendre pleinement ce qui est dit, parce que si nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas répondre. Alors il vaut mieux d'écouter deux fois et parler une fois si nous voulons annoncer la bonne nouvelle. Selon le pape, nous devons donc travailler à la manière comment nous partageons la foi, et non pas que nous partageons la foi. Puisque nous avons... Bon, voilà. Et ce comment, c'est vraiment de travailler, et ça pourrait être un exercice, une fois, de prendre le temps, comment est-ce que, dans quelle attitude j'annonce l'Évangile.
Quelque chose comme la base de tout cela qu'on a dit, pour que vous tenez le coup dans le quotidien, c'est la question, où est votre Béthanie?
Le point numéro 8.
Oui, c'est le point numéro 8.
Le avant-dernier.
Pourquoi Béthanie? Vous connaissez la situation de Bible en Matthieu, où Jésus est en colère dans le temple, et où il a chassé tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il était en colère. Mais une phrase importante, verset 17, « Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. » Alors Jésus, il a pris cette décision de recul, une décision de guérison une décision de se rassembler, de regagner son équilibre, hein, de prendre un temps de prière, un temps de silence avec le Père, un temps qui était essentiel, important pour lui, pour avancer, pour re-entrer dans le monde, voilà, continuer sa mission. Et alors la question que nous posons aujourd'hui, que je vous pose, c'est où est votre Bethany? Alors, quelle est la place de la prière dans votre vie quotidienne? Hein? Est-ce que vous prenez une décision chaque jour, vraiment, prendre quelques minutes de temps silence pour nourrir la relation avec Dieu? Alors, par exemple, moi, j'ai un petit corbeil à la maison, et dans ce corbeil, c'est un sac corbeil, j'ai un Bible dedans, j'ai le Magnificat dedans parce qu'il ne m'arrive pas d'aller à la messe tous les jours là où on habite. J'ai un crayon, des feuilles, j'ai mon carnet des paroles. Et j'ai décidé, parce que moi c'est vraiment une décision, une fois, à m'organiser et avoir ce sac-là. Et quand je prends mon temps, alors j'ai mon sac et j'ai tout dedans. N'importe où je vais, j'ai mon sac et je peux prendre mon temps, lire quelque chose, lire des phrases, vraiment parler avec mon ami. Parler avec Jésus. Alors, c'est aussi à vous la question, quels sont les outils qui vous aident à tenir le coup, à rester fidèle au Seigneur? Ce sont les décisions à prendre, c'est son agenda, à regarder son agenda, vraiment à apprendre, à s'organiser. C'est peut-être des outils à avoir vraiment en place où on trouve facilement, il ne faut pas courir autour de la maison pour chercher son Bible, mais vraiment pour l'avoir dans un endroit où on la trouve facilement. Le carnet des chants, par exemple, d'ici, si vous l'apportez à la maison, ça vous aide à chanter un chant.
Parfois, c'est très simple, des décisions très simples qu'il faut prendre. Alors, Elisabeth, elle râlait toujours sur notre journal, parce que ce journal, elle trouvait qu'il n'avait que des images et que les journalistes ne travaillaient pas bien. Non, mais c'est moi qui parle. Ça sert à rien et ça coûte que de l'argent et en plus c'est pas bien recherché.
C'est pas sérieux.
En tout cas, j'ai arrêté ce contrat immédiatement et on a commandé Magnificat et depuis là, elle lit le Magnificat et les textes de l'Évangile le matin et ça va beaucoup mieux, je trouve. Et moi, je lis le journal au bureau.
Dernière mention à ce point-là, il m'arrivait que je téléphonais à un ami prêtre encore, et il m'a dit, première chose qui m'a touchée, il a recommencé à prendre un temps fidèle de prière. Alors déjà, j'étais vraiment touchée qu'un ami prêtre me confie ça. Alors j'ai dit, ah, les difficultés, c'est pour tout le monde. Et deuxièmement, il m'a dit, c'est parce qu'on rentrait dans un échange sur la prière, il m'a dit, c'est pas que le travail se diminue, hein, on n'a pas moins de choses à faire, mais maintenant, après la prière, je sais les priorités. Hein, et c'est ça ce qui vaut le coup. Hein, ça nous donne vraiment, parce que dans tout ce que nous avons à faire, et je crois que tout le monde qui est ici il est vraiment chargé, avec beaucoup des engagements, tout ça, voilà, à savoir, mais qu'est-ce qui sont les priorités? Qu'est-ce que je peux laisser? Et où est-ce que je dois m'investir? Et le dernier point, on pouvait ajouter des centaines, mais vraiment le dernier point de nos côtés, c'est nous avons le droit de nous tromper. Et ça, il me semble que aussi quelque chose de fond, de base, à garder en mémoire, parce que nous avons nos limites. Hein. Et aussi, notre quotidien, il est pavé par des petits... on dit quelque chose qu'on aurait peut-être pas dit, on s'énerve avec les enfants, on oublie quelque chose d'important, on fâche quelqu'un, voilà, vraiment beaucoup, beaucoup. Et moi, ça m'aide vraiment de pouvoir vivre la grâce de la conversion. Tous les moments de ma journée, hein. C'est pas quelque chose de grand, mais c'est vraiment la grâce de la conversion, c'est de me mettre devant le Seigneur en disant, vraiment, ça peut être un petit moment de recul, en disant, ça s'est pas bien passé, mais prends-le dans tes mains et tu fais là. Quelqu'un qui m'a dit une fois, Dieu, est capable de faire quelque chose de plus grand hors d'une misère ou d'un quelque chose qui est raté ou hors d'un échec. Hein. Dieu sait faire quelque chose de plus grand. Et moi, ça m'aide vraiment, en tant que quelqu'un plus scrupuleuse, à avancer et à laisser tomber, à ne pas rester sur mes échecs en pensant, mais est-ce que je pourrais plus faire ceci ou ceci, mais vraiment avancer, parce que c'est Jésus qui est toujours près de moi et il dit, tu t'es trompé, c'est vrai, hein, tu as fait une faute, mais reprends le bon chemin. N'aie pas peur des difficultés et n'aie pas peur quand ton cœur est triste. Mais vraiment, prends les choses comme elles viennent, hein, c'est tout ce d'autres points dont on va parler, parce qu'avec l'Esprit du Seigneur, et c'est vrai, hein, c'est très concret, et avec l'aide de l'Esprit Saint, nous pouvons avancer en sécurité et sur le juste chemin. Et aussi l'Évangile, qui est plein de situations d'erreurs, de situations difficiles, ou de gens qui se trompaient. Et qu'est-ce que ça nous aide de savoir qu'il ne faut pas être parfait dans un monde qui tente à chercher le perfectionnisme.
C'est vraiment cette miséricorde qui est la réponse au perfectionnisme de ce monde où personne n'a le droit de se tromper. Si on regarde bien ce qui se joue aussi essentiellement parmi les médias, alors si quelqu'un se trompe, alors il est officiellement devant tout le monde, il est jugé par télé, jugé par journal, jugé par tout le monde. Alors dans ce moment où tout le monde doit être parfait et où on ne peut pas se tromper, nous pouvons être heureux de connaître Saint Paul, parce que Saint Paul dit et écrit « La force se déploie dans la faiblesse ». Et Saint Paul peut écrire cela parce qu'il est sûr de la miséricorde de Dieu pour lui-même et aussi il est sûr de la miséricorde pour toutes les hommes. Il se jette vraiment dans cette miséricorde. Moi, personnellement, j'étais beaucoup touché par ce nouveau pape quand il nous a re-enseigné tout de suite au début ce que c'est la miséricorde de Dieu. Il n'arrête pas de nous parler de la miséricorde et il est convaincu que les réponses qui se posent aujourd'hui dans la société moderne, dans le monde moderne, soient résolues et répondues uniquement par la miséricorde du Seigneur. Alors nous voudrions finir ce partage avec vous avec un texte de son homélie le 7 avril. Dieu nous attend toujours. Même quand nous nous sommes éloignés, lui n'est jamais loin, et si nous revenons à lui, il est prêt à nous embrasser. Dieu nous attend toujours, il ne se fatigue pas. Jésus nous manifeste cette patience miséricordieuse de Dieu pour que nous retrouvions confiance et espérance, toujours. Un grand théologien allemand, Romano Guardini, disait que Dieu répond à notre faiblesse avec sa patience. Et c'est le motif de notre confiance, de notre espérance. C'est comme un dialogue entre notre faiblesse et la patience de Dieu. C'est un dialogue qui nous donne espérance si nous le faisons. Chers frères et sœurs, laissons-nous envelopper par la miséricorde de Dieu. Comptons sur sa patience qui nous donne toujours du temps, ayant le courage de retourner dans sa maison, de demeurer dans les blessures de son amour et nous laissant aimer par lui, de rencontrer sa miséricorde dans les sacrements. Nous éprouverons sa tendresse si belle, nous sentirons qu'il nous embrasse et nous serons nous aussi plus capables de miséricorde, de patience, de pardon et d'amour.